BFM Business, tout pour investir. Antoine Larigaudry.
Bien le bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition de Tout pour investir. TPI, votre émission, l'émission au service de vos investissements sur BFM Business. Évidemment, on est en direct à la radio, à la télé, sur le web et en podcast. Des marchés qui continuent de digérer l'environnement instable. Ça bourdonne et ça bourdonne positivement sur les marchés. Plus 0,85% pour le CAC 40 qui vient de repasser la barre des 8300 points. On a à la fois des signaux techniques et fondamentaux qui nous disent que ça va mieux à court terme. C'est pas pour autant le moment de baisser la garde. Alors la grande valse des résultats a commencé, il y a des opérations financières porteuses, mais quelques signaux continuent à crisper le marché. Alors notamment la situation économique de la Chine par rapport à tout ce qui est en train de se passer au Moyen-Orient et ses conséquences sur le marché de l'énergie. Donc de quoi rester quand même bien prudent, bien protéger ses investissements. Et on va parler de tout ça avec Christian Fontaine du magazine Le Revenu et Félix Baron du Club des investisseurs indépendants. Alors deux aspects du marché qui vont avec et qui vous intéressent. Quid des marchés émergents et des opportunités d'y investir? On en parlera tout à l'heure avec Arnaud Gian de BlackRock dans le placement à suivre. Et tiens, tant qu'on en est au sujet brûlant sur les marchés, est-il temps de déjà revenir sur le secteur des logiciels qui a été maltraité, c'est le moins qu'on puisse dire, en bourse face aux disruptions réelles ou supposées de l'intelligence artificielle? Alors gros plan là-dessus avec Stéphane Rudzinski de Rétores en fin d'émission. Enfin, un point pratique avec Christian Fontaine tout à l'heure. Bah oui, la saison des déclarations d'impôts est ouverte. Du coup, on va commencer à bien en parler pour bien vous aider à ne rien oublier, économiser de précieuses munitions sur vos investissements, sur votre épargne, sur vos placements. On vous prépare aussi une édition spéciale de TPI à ce sujet pour dans une quinzaine de jours. On vous préviendra suffisamment à l'avance pour noter tout ça dans vos tablettes. Mais restez bien à l'écoute, on va réunir tous nos spécialistes pour vous aider vraiment à remplir le mieux possible votre déclaration d'impôt en fonction de votre profil d'investisseur. Alors, pour poser vos questions, vous pouvez nous joindre par email direct@bfmbusiness.fr, nous envoyer un SMS au 73216, tapez le mot-clé business suivi de votre message, votre question. Enfin, vous pouvez me joindre directement sur Twitter et sur LinkedIn. Le reste de l'actualité du jour. Alors, l'activité économique résiste en France. Dans sa nouvelle note de conjoncture publiée hier soir, la Banque de France parle d'un impact limité pour le moment de la guerre au Moyen-Orient sur l'économie, au point qu'elle maintient sa prévision inchangée de croissance sur le début de l'année. Malgré tout, il y a eu aussi 19 000 défaillances d'entreprises au premier trimestre, plus 6% sur un an selon le décompte du cabinet Altares ce matin. Conséquence, 75 000 emplois sont menacés. Et c'est un chiffre jamais vu depuis la crise de 2009. Accordé 27 pour doubler les droits de douane sur l'acier étranger, assorti d'une division par deux des quotas d'exemption. Ce sera ainsi 50% de surtaxe au-delà des 18 millions de tonnes importées, c'est-à-dire le niveau autorisé en 2013, avant la grosse vague de subventions chinoises. Pékin, parallèlement, annonce ce matin une envolée de ses importations, plus 28% en mars sur un an, quand les exportations déçoivent. Après plus 20% sur les deux premiers mois, il n'augmente que de 2,5% en mars. Enfin, à suivre aujourd'hui, l'Assemblée Générale de Stellantis, la question de la rémunération du directeur général revient sur la table avec un vote consultatif des actionnaires. Mais si le salaire d'Antonio Filosa est nettement moins élevé que celui de Carlos Tavares, il fait encore grincer des dents. Vous pouvez retrouver un dossier complet sur la question préparé par Justine Vassogne sur notre site internet bfmbusiness.fr. Allez, le tableau de bord de vos marchés à présent.
Tout pour investir, le tableau de bord.
Et ça va mieux, et ça bourdonne sur le CAC 40. Plus 0,86%, 8306 points pour l'indice vedette de la Bourse de Paris. Partout, du côté des marchés, que ce soit européens et américains, on semble digérer l'instabilité ambiante et se consacrer à nouveau aux fondamentaux et parmi eux, notamment les résultats d'entreprises. Alors, c'est vrai que pour le coup, du côté du CAC 40, ça nous occasionne une légère sous-performance par rapport aux indices européens. L'Eurostock 50, lui, gagne 1,17% à 5974. Le DAX à Francfort, plus 1,2% et plus 0,8% pour Madrid. Mais oui, mais nous, on a LVMH qui pèse un petit peu. Alors, cela dit, c'est très bien payé. C'est vrai que les chiffres de vente étaient un petit peu décevants hier soir. Il y a eu une grosse réaction en après-marché qui se tasse Là, vraiment, on continue de penser quand même que 19 milliards d'euros de chiffre d'affaires en un trimestre, c'est quand même une performance au vu du climat actuel et de l'instabilité ambiante. Le titre LVMH est en recul, mais un recul modéré, hein, moins 0,29% à 480,35 €. En revanche, on est en risk on sur le marché, hein. On accepte de prendre des risques à nouveau et on met de côté les valeurs défensives. C'est le cas d'Orange qui recule de 0,5% à 17,58 €. Engie, moins 0,52 €. 28,82 € ou encore Eiffage, moins 0,39% à 139,95 €. À noter que ça a pas mal corrigé sur le pétrole. Le baril de Brent est à 98,21 $ et on redescend largement plus pour le brut léger américain du côté des 96. Le baril de brut léger américain qui repasse sous le Brent, c'est un signal technique important et du coup ça pèse un petit peu sur Total qui perd 0,28% à 79,44 €. Viridien sur le SBF 120 qui a signé la plus forte hausse du jour hier, repli de 0,99 €. On est à 130,10 €. Parmi les valeurs en hausse sur le CAC 40, à noter Eurofins Scientifique qui annonce une importante cession d'une filiale américaine de test. Le titre gagne 4,99% à 68,14 €. On a Saint-Gobain moins 3,15 à 77,88 € et Stellantis plus 2,9% à 6,89 €. La plus forte hausse du SBF 120, elle est encore une fois pour Soitec, très entouré en ce moment, plus 9,3%, 70,68 €. Du côté des taux d'intérêt, du côté du marché obligataire, ça s'est un petit peu détendu. On redescend à 3,70 € pour le 10 ans français, 3,05 € pour le 10 ans allemand, 4,28 €. Alors la détente est nettement plus importante du côté américain, le 10 ans américain, 4,28% de rendement. À noter l'or aussi qui a repassé le cap des 4 800 $. 4 807 $. Et un dernier mot, l'indice VIX, l'indice de la volatilité du côté de la bourse de Chicago, le baromètre de la peur, comme on l'appelle un peu sur les marchés américains, est repassé loin sous les 20 points. On est à 18 désormais, donc signe d'un retour au calme précaire, mais calme pour le moment sur les marchés. En tout cas, à court terme, ça se passe bien. On déchiffre l'actualité.
Tout pour investir, le déchiffrage.
Avec nous en direct, Christian Fontaine du magazine Le Revenu. Bonjour Christian.
Bonjour Antoine.
Et Félix Baron du Club des investisseurs indépendants qui est en visio avec nous ce matin. Bonjour Félix. Je vais peut-être commencer par vous. On disait retour aux fondamentaux sur les marchés. Alors ça vaut pour les résultats d'entreprise, ça vaut pour les chiffres macroéconomiques et il nous dirige plutôt du côté du marché chinois. C'est-à-dire qu'on a une agitation géopolitique et un climat de crispation qui commence à avoir des implications de plus en plus palpables sur le marché de l'énergie et la Chine est en plein milieu du dossier. Quel est le sentiment vis-à-vis de la Chine? Parce qu'on attend aussi de ce pays de rester une des locomotives économiques mondiales. On sent que la crispation est maximale au niveau géopolitique aussi. La Chine est au centre de l'échiquier. Économiquement, qu'est-ce que ça donne et qu'est-ce qu'on peut éventuellement redouter, Félix? Félix Baron qui apparemment ne nous entend absolument pas. Christian Fontaine, on va peut-être commencer par vous. Alors, on est dans ce retour aux fondamentaux des marchés, donc on parlait de la macroéconomie et de la Chine. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce qui nous attend éventuellement pour les résultats du premier trimestre? On a eu alors deux types d'indications. Le secteur bancaire américain, ça va plutôt bien. Ça va continuer, les publications aujourd'hui. Puis on a eu LVMH. Alors LVMH, tout le monde était « Oh là là, catastrophe, c'est en dessous du consensus. » Bon, ça va. 19 milliards de chiffre d'affaires sur un trimestre qui est marqué par une crispation totale. Et puis des signaux encourageants aussi. Ça se passe bien du côté du marché chinois, là, précisément, et du côté du marché américain. Qu'est-ce qu'on peut anticiper de ce premier trimestre?
Alors, d'accord avec vous sur le constat, à savoir que pour le CAC 40 et d'une façon générale pour la Bourse de Paris, donc on ouvre une nouvelle séquence, donc la séquence des résultats, qui a débuté hier avec les résultats de LVMH. Alors, effectivement, hors marché, hors séance, on était sur autour de moins 3%, et puis une baisse qui se réduit de minute en minute et on doit être pas loin autour de 0% aujourd'hui de variation pour l'indice LVMH. Alors, si on prend un tout petit peu de hauteur, en fait, les anticipations des marchés sont assez élevées avec une progression attendue des résultats du T1 aux États-Unis pour le Standard & Poor's 500 autour de plus 12,5%. En Europe, on est avec des résultats on attend autour de 4 à 5%. Alors attention, aux États-Unis, on communique sur les résultats nets. En Europe, c'est plutôt des évolutions de chiffre d'affaires. Quel enseignement tirer de cette première publication ? D'abord, je suis assez d'accord avec votre ligne et votre analyse, à savoir que c'est loin d'être catastrophique, et en tout cas c'est bien meilleur que la réaction de la bourse fin janvier à l'annonce des résultats annuels. Souvenez-vous, l'annonce des résultats annuels d'LVMH 2025, le 27 janvier, le 28 janvier, le lendemain, le cours avait décroché de moins 8%. En fait, la vraie question qui se pose, c'est, souvenez-vous des résultats annuels, l'accueil des marchés avait été d'une volatilité incroyable. Certains titres, notamment Dassault Systèmes de mémoire, avaient décroché de moins 20%. Donc, il y avait eu des variations considérables.
Je mettrais ça en parallèle. L'accueil des résultats d'LVMH à ceux de Microsoft. On a eu... vraiment, les titres se sont fait émietter. Il n'y a pas d'autre mot. Est-ce que, justement, on n'est pas devenu beaucoup trop négatif sur des locomotives de marché, LVMH chez nous et Microsoft du côté des États-Unis ?
Mais c'est peut-être le premier enseignement de ces résultats trimestriels, à savoir que les variations sont relativement faibles. En tout cas, là, pour cette première réaction sur le titre LVMH, donc qui a publié les T1 hier soir, la réaction est très faible. Donc, on voit bien la résilience, en fait, du marché. Alors, au-delà, en fait, qu'est-ce qui va intéresser les analystes ? C'est de voir quel est l'impact, en fait, macroéconomique de la crise en Iran. Et surtout, cet impact à très court terme va être sans doute très faible, hein, puisqu'en fait, il n'y a eu que 2 mois. Donc, le temps que cette crise commence à se diffuser dans l'économie, c'est trop peu. On va regarder, effectivement, de près quelles vont être les réactions et les sentiments des chefs d'entreprise sur le reste de l'année. C'est ça qui va devenir essentiel. En fait, on voit bien que alors c'est un peu trop tôt pour le dire, mais on se dirige, il y a eu la parenthèse de la guerre en Iran, et peut-être qu'on peut fermer cette parenthèse et on va revenir aux fondamentaux. Les fondamentaux, notamment, c'est l'impact de l'IA sur la macroéconomie, l'impact aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. Alors, après ça, la question est de savoir un tout petit peu que faut-il faire dans une telle conjoncture ? Lorsqu'on est un investisseur particulier. Mais j'aurais tendance à dire, je sais bien, c'est pas très vendeur pour une émission placement comme la vôtre, mais c'est surtout sans doute de ne rien faire. Et pourquoi ne rien faire ?
Mais c'est une décision importante de rien faire sur les marchés et pour ses placements.
Et en période de crise, Warren Buffett, que vous citez souvent, et nous aussi au revenu, a toujours tendance à dire, est-ce qu'il faut acheter aujourd'hui, est-ce qu'il faut acheter demain, est-ce qu'il faut acheter dans un mois ? Enfin, en compte, tout dépend de votre situation personnelle. Donc moi, j'aurais tendance à dire, aujourd'hui, on ne bouge pas. Attention, si on sort du marché, on risque de passer à côté d'un rebond violent. Regardez ce qui s'est passé mercredi dernier, avec un CAC 40 qui a quand même pris 4,5% dans la journée.
Et qui lâche rien depuis.
Donc, si vous n'étiez pas investi mercredi dernier, ou si vous aviez pris une partie de vos gains et que vous aviez 20-25% de liquidité, votre performance annuelle par rapport au CAC 40, elle est déjà morte. Ouais. Bon. Donc, attention aux effets de porte de saloon qui consiste à essayer de sortir du marché parce que vous prenez la baisse et vous prenez pas la hausse qui suit. On vient de terminer un mois de mars sur le CAC 40 historique. C'était l'un des pires mois depuis 6 ans, en fait. Mais attention, l'année dernière, le fameux mois d'avril des tarifs, où on a vu les plus fortes séances de baisse, mais les plus fortes séances de hausse aujourd'hui.
De reprise, bien
Donc,
sûr.
J'aurais tendance à dire prudence, restez investi si, encore une fois, si votre profil d'investisseur le permet, c'est-à-dire si vous n'avez pas besoin de toute partie des liquidités de votre argent investi en bourse au cours des 24 ou 36 prochains mois. Restez investi, c'est pas forcément non plus le moment, si vous avez quelques liquidités, de faire votre marché. La dernière fois qu'on s'est vu, on avait parlé de faire ses courses, notamment sur des très beaux titres qui avaient beaucoup reculé. Safran, BNP, Schneider et Vinci.
Un petit peu de value, quoi.
Et tous ces titres ont rebondi mercredi dernier, jeudi dernier. Ils ont tous repris 10% dans la journée.
Ouais.
Donc, c'est pas forcément le moment de faire son marché. C'est un peu trop tôt. C'est pas le bon market timing. Le seul titre, vous le citiez tout à l'heure, vous parliez de Total. C'est vrai que Total, autour de 80 euros, plus forte progression depuis le début de l'année au sein du CAC 40. On doit être sur une hausse autour de 45%. S'il y a bien un titre sur lequel peut-être quelques prises de bénéfices au cours actuel peut être intéressant, c'est peut-être Total. Voilà. Donc je crois on ouvre vraiment une nouvelle séquence de bourse. On va revenir vers les fondamentaux, donc à la fois les résultats des entreprises et à la fois les guidelines, donc les méga-trends de long terme, notamment la numérisation de l'économie et l'impact de l'IA sur la macro. Donc maintenant, on va regarder un tout petit peu comment réagissent les secteurs qui sont fondamentaux pour la Bourse de Paris. Le luxe, bien sûr, on a déjà eu un avant-goût. Et puis Kering devrait publier aussi, je pense, aujourd'hui après Bourse.
Ce sera
donc,
ça, oui.
On va regarder le luxe, bien sûr, compte tenu notamment de son poids dans le CAC 40. On va suivre, bien sûr, la défense. Est-ce que, vous savez, les titres de défense, notamment, je pense par exemple à Thales, mais il y en a d'autres, depuis un an, ils font pas grand-chose, en fait. Et donc, on va voir si, enfin, je dirais, les commandes augmentent, alors que, bien sûr, les carnets sont déjà bien remplis, mais on va voir s'il y a un phénomène d'accélération. Le secteur des logiciels, vous en parliez tout à l'heure. Voilà, c'est quelques secteurs qu'il faudra regarder de très très près et voir comment les entreprises ont passé ce premier T1.
Effectivement, les logiciels, on en reparlera en toute fin d'émission. Hein. Il y a quand même quelques signaux qui montrent que l'hémorragie est peut-être en train de s'arrêter. Félix Baron, Club des investisseurs indépendants. Alors, je vous vois sourire à mon écoute, donc je me dis que vous devez entendre mes questions.
Je vous entends, bien sûr.
Ah, c'est merveilleux, et on vous entend. Donc, c'est parfait. Je voulais juste revenir avec vous sur un dossier, c'est le dossier de la Chine. On attend pas mal de chiffres macroéconomiques sur l'état de l'économie chinoise. On en a déjà quelques-uns depuis hier. En même temps, voilà, la place de la Chine dans l'échiquier géopolitique du moment commence à faire question. Tous les yeux se tournent vers la Chine, en réalité, aussi bien du point de vue de ce qui se passe à Hormuz que du côté de l'impact que ça peut avoir sur l'économie chinoise, qui est largement importatrice de pétrole. Quel est votre sentiment à ce sujet? Quel point important vous voyez à signaler?
Christian parlait il y a 5 minutes d'une parenthèse de la guerre en Iran qu'on pouvait peut-être refermer. Alors, je suis pas sûr qu'on puisse la refermer tout de suite, parce que le Moyen-Orient, finalement, on pense que c'est juste un problème de pétrole. En réalité, c'est en train de devenir un talon d'Achille de la Chine. Et s'il y en a un qui l'a bien compris, c'est Donald Trump. Il est toujours en train de faire le pitre, à faire des singeries d'un côté ou d'un autre. Mais il a bien compris une chose. Il y a jusqu'à 40% du pétrole de la Chine, voire plus, qui transite par Hormuz. La Chine fait 4 fois plus de commerce international avec le Golfe que les États-Unis. Donc, les États-Unis n'ont pas tellement d'enjeux économiques réels dans la zone. Ils ont un enjeu de contrôle, évidemment. En revanche, la Chine, depuis 20 ans, a investi 270 milliards de dollars dans la région. On est dans le déchiffrage, on parle de 270 milliards sur 20 ans pour faire des raffineries, pour faire des champs pétroliers, gaziers, pour faire des pipelines, des centrales électriques, avec l'Arabie Saoudite, les Émirats, l'Irak, même l'Iran. Donc, pour la Chine, le Golfe, c'est une stratégie de survie économique. Si vous voulez comprendre le jeu du pétrole à Hormuz dans le Golfe, il faut d'abord comprendre la Chine. La Chine n'a pas vraiment d'alternative rapide pour une autre énergie. Les États-Unis, eux, ils s'en moquent. Ils ont 8% de leur pétrole qui vient du Golfe. Le reste, ça vient du Canada. Et c'est là que ça devient intéressant pour les marchés, c'est que la dépendance de la Chine aux pays du Golfe, elle transforme la dynamique du pétrole. On entend souvent que la situation va se calmer puisque on a eu un début d'accord de cessez-le-feu qui n'a pas forcément tenu, un blocus qui pourrait s'arrêter, mais à court terme peut-être que la situation va se calmer. En réalité, le risque autour d'Hormuz est devenu permanent, parce que la situation depuis fin février a permis de cristalliser le fait que 20% du pétrole mondial transite à Hormuz, et tant que ce point existe et qui peut permettre de mettre la pression à la Chine par les États-Unis, eh bien le risque d'instabilité ne va jamais disparaître. Donc à court terme, le baril, il peut se stabiliser, voire corriger. Je vous ai parlé il y a plusieurs semaines, pour moi, d'un couloir entre 90 dollars et 120 dollars. Donc, à mon avis, le baril va rester dans ce couloir. Mais à moyen terme, à horizon 18 mois, 24 mois, la dynamique me paraît différente, dans le sens où il y a un sous-investissement global dans le pétrole. La demande asiatique chinoise est forte, même s'ils ont du charbon, même s'ils développent des centrales nucléaires, ils n'ont pas encore pour l'instant d'alternative très rapide pour pivoter. Et puis il y a des tensions géopolitiques persistantes qui conduisent à faire monter le prix du baril. En plus de ça, une asymétrie, parce que qui existe. On voit qu'aujourd'hui, une seule fermeture d'une usine ou d'une raffinerie, une frappe, une escalade dans la région, et les prix peuvent exploser très vite. Donc, si vous pensez que le pétrole est pas cher aujourd'hui ou qu'il a été cher, en fait, il est probablement assez mal évalué par le marché qui voit la situation dans le Golfe, qui voit le doigt pointé vers le Golfe, mais qui ne voit pas l'espèce de nouvelle guerre froide, guerre tiède, entre guillemets, entre les États-Unis et la Chine. Donc la vraie question pour moi, c'est pas est-ce que le pétrole va monter demain, c'est comment on se positionne face à ce risque quand on est investisseur. Alors évidemment, on va pas parier directement sur le baril, c'est trop volatile, probablement, et trop imprévisible. La bonne approche, encore une fois, pour moi, c'est indirect. Aujourd'hui, à mon avis, en 2026, ceux qui gagnent, c'est ceux qui vont encaisser, ceux qui vont choisir des stratégies d'investissement orientées cash. Donc, des services pétroliers, des infrastructures énergétiques, des pipelines, de la logistique, ça, c'est des actifs qui rapportent du cash et qui sont généralement généreux en dividendes. Et puis, eux, ils gagnent presque dans tous les scénarios. Ouais. Si vous avez des prix élevés dans le pétrole, il y a plus d'activité. Si vous avez des prix stables, le cash flow, il est solide. Et s'il y a de la volatilité, bah, ça fait des marges plus élevées, notamment pour la raffinerie. Donc, ça peut vouloir dire des grands noms des services pétroliers, les majors, j'ai déjà cité, des acteurs du GNL, hein, le gaz naturel liquéfié, des sociétés liées aux infrastructures critiques de l'énergie. On en a plein, il y en a en France, en Europe, mais aussi aux États-Unis. Le deuxième point pour un investisseur particulier, ça va être de penser protection, parce que derrière le pétrole, il y a un risque inflationniste. Donc, si vous êtes exposé aux matières premières, à l'énergie et éventuellement à l'or, vous suivez au moins l'inflation, à minima. Vous faites peut-être mieux, mais à minima, vous êtes couvert. Et puis enfin, je le disais, ceux qui ont du cash sont ceux qui vont gagner. Donc, probablement garder un peu de cash stratégique. Je rejoins ce que disait Christian sur le fait qu'il faut surtout pas succomber à la panique et que le choix de ne rien faire est déjà un choix en soi. Si votre portefeuille, il est déjà bien équilibré autour de l'énergie, des matières premières, éventuellement de l'or, et que vous avez une petite réserve de cash, eh bien, vous pouvez tout à fait ne rien faire et passer un bon début de printemps sur les marchés.
Bon, mais comme ça, on a quelques indications intéressantes hein, pour commencer la journée, pour éventuellement commencer à planter quelques petites graines. Merci beaucoup, Félix Baron, du Club des investisseurs indépendants. Merci Christian Fontaine, du magazine Le Revenu. On vous retrouve dans quelques minutes. Hein, on va parler c'est aussi de saison, les impôts. Oui. C'est ouvert, la saison de la déclaration. Et autant bien commencer avec quelques bons conseils introductifs. On vous prépare une spéciale. Hein, on réunira nos meilleurs spécialistes. Et Christian Fontaine, s'il a envie d'ailleurs, pour vraiment être complet hein, sur la déclaration d'impôts. On fera ça à horizon 2 semaines. Hein, histoire que vous ayez le temps de vous préparer. On passe aux arbitrages de marché justement avec Gilles Santacreux.
Tout pour investir, arbitrage.
Gilles, un marché qui se porte très très bien. On est quoi ? On est à 300 points de nos derniers records historiques sur le CAC 40, plus 0,75%. Et encore, on a LVMH qui plombe un peu l'atmosphère. Mais enfin, c'est loin d'être une catastrophe. Il faut dire que les chiffres publiés hier par LVMH sont quand même relativement résilients. Encore une fois, 19 milliards de chiffre d'affaires sur un trimestre, ça reste quand même colossal dans le contexte actuel. Et puis, voilà, on a quand même quelques dynamiques de croissance assez intéressantes sur le CAC 40 qui permettent de signer cette bonne performance ce matin, Gilles.
Oui, on est sur une bonne dynamique. Alors effectivement, on a LVMH qui retient un petit peu le CAC 40 hein, lorsque l'on compare un petit peu le CAC avec l'Eurostox ou le DAX. Sur ces deux derniers indices, on est sur des progressions aux alentours de 1,1%. Là, sur le CAC 40, on est à 0,7. Bon, on a un petit retard, mais on reste quand même sur un trend haussier. La zone qui sera importante aujourd'hui, c'est la zone que l'on a échoué au franchissement mercredi et vendredi dernier. C'est-à-dire, c'est la zone de gap hein, qui s'était ouverte le 3 mars, entre 8300 et 8376. Bon, on va dire qu'un franchissement à la hausse des 8380 effacera cette zone. C'est un signal important hein, qui avait confirmé le retournement à la baisse après donc les records donc du CAC 40 à la fin du mois de février. Et c'est un petit peu ce franchissement que l'on attend pour vraiment valider une dynamique forte. On a des signaux qui sont intéressants, là où on avait des volumes relativement, enfin inférieurs à la moyenne hier et puis sur la séance de vendredi. Ça semble un peu plus étoffé aujourd'hui, donc on va surveiller, parce que avec justement ces volumes un peu supérieurs à moyenne, et puis si LVMH réduit un petit peu ses pertes, ça pourrait nous aider justement à franchir cette zone. On est porté par une configuration où les USA nous envoient des signaux très forts aussi à la hausse, hein, on a des signaux assez importants, donc globalement on peut continuer de regarder vers le haut. Les premières zones d'alerte, eh bien ça sera le point bas d'hier, donc la séance que nous avons eue, donc avec un point bas à 8163 points. Et puis on a ce gap hein, qui nous pour l'instant, en tout cas, nous donnerait un signal de retournement s'il était refranchi. Gap haussier, donc, qui s'est ouvert mercredi dernier. Donc, il ne faudrait pas repasser sous la zone des 8090 points avec une zone de retournement majeure sous 7880 points.
Bon, et puis un petit coup d'œil sur les cryptos. Alors là, pour le coup, on a quelques signaux d'agitation. Le Bitcoin a bien repris un cap dynamique. Hein. On a repassé assez largement les 74 000 dollars. On sent que voilà, il y a une prime de risque qui est quand même partie des cryptos. Même l'Ether suit le mouvement. On est du côté des 2400 dollars. C'est des signaux à suivre, ça, ou il est encore un peu tôt?
Ce sont des pré-signaux pour l'instant. Ouais. Moi, je surveille les crypto-monnaies actuellement puisque on a eu des cryptos qui ont fortement baissé ces derniers temps et le fait que le marché puisse éventuellement se relancer, on voit que les cryptos sont encore un peu à la traîne et il pourrait y avoir un effet de rattrapage. Alors, encore une fois, c'est pas encore confirmé. 75 000 dollars pour un Bitcoin est un seuil assez important. C'est une zone qui avait donné un échec de franchissement sur la séance des 17 mars. Si on revenait au-delà de cette zone, il faudrait attendre de revenir au moins au-dessus des 81 000 dollars pour un Bitcoin pour vraiment confirmer un vrai retournement de tendance. Vous m'avez parlé de l'Ethereum, on est aussi sur des seuils majeurs, aussi sur une zone ici, une zone de point haut qui avait été touchée mi-mars aux alentours des 2400 dollars pour un Ether. On a une zone technique à 2450, mais là aussi, il faudra attendre un retour au-dessus des 2775 dollars pour avoir des signaux de retournement un peu plus forts. Donc, on surveille, mais il pourrait effectivement, comme vous l'avez dit, y avoir un début de signal qui pourrait relancer une dynamique haussière donc sur l'ensemble du secteur. On commence aussi à percevoir certaines décorrélations. Vous savez, quand un secteur est trop corrélé, en général, ça montre qu'il y a une certaine fragilité. Là, on commence à avoir des divergences entre certaines cryptos qui pourraient nous annoncer justement une petite reprise.
Merci infiniment Gilles Santacreux, boursicoté.com. Une petite pause, réclame et Tout pour investir continue dans quelques secondes. On retrouve Christian Fontaine du magazine Le Revenu. Et on va ouvrir le courrier, regarder la feuille de déclaration d'impôt et puis essayer de faire en sorte de faire ça bien, que vous gardiez des munitions, que vous perdiez rien en route suivant votre profil. On voit tout ça avec lui dans quelques minutes. À tout de suite.
Tout pour investir, la boîte à outils.
Bon, c'est un des grands rendez-vous de l'année, évidemment, déclarer ses impôts. On va vous préparer psychologiquement au truc. Alors, ça y est, la fenêtre de tir est ouverte. Vous pouvez désormais déclarer vos impôts depuis quelques jours. On va déjà se préparer mentalement à tout ça avec Christian Fontaine. Alors, suivant votre profil d'investisseur, évidemment, c'est un enjeu différent à chaque fois. Maintenant, l'enjeu principal, quel que soit votre profil, c'est de rien laisser en route, de garder des munitions et surtout de rien perdre.
Alors, bien sûr. Alors, d'abord, il faut se remémorer quand même les dates, hein, les dates limites. Mm-hmm. Donc, vous avez, si vous habitez département 1 à 19 et les non-résidents jusqu'au 21 mai pour remplir vos devoirs fiscaux, les départements 20 à 54, 28 mai et 55 à 976, 4 juin, 19 mai, si vous remplissez encore, mais il y a de moins en moins de gens, votre déclaration sur le papier. Donc, Antoine, vous l'avez dit, donc le service de déclaration en ligne est ouvert. Pas de panique. Et pour que tout se passe bien, premier conseil, je dirais d'abord commencer par retrouver votre numéro fiscal à 13 chiffres. Hein, il figure en haut à gauche de l'avis d'imposition que vous avez reçu en juillet et août dernier. Assurez-vous que vous avez toujours votre mot de passe. Pas de panique, si vous ne l'avez pas, vous pouvez le renouveler. Alors, étape essentielle, souvent, vous savez, on se connecte à son compte et puis on se lance billet en tête pour remplir sa déclaration. L'élément essentiel, en fait, c'est la préparation. Il est absolument essentiel de rassembler tous les documents pour n'oublier aucun avantage fiscal. Alors, mini-liste, reçu de dons aux œuvres, bien sûr, c'est l'une des plus principales niches fiscales. Plusieurs millions de Français en profitent chaque année. Bulletin de salaire de décembre, ça va vous permettre, avec le net imposable en cumul annuel déjà pré-imprimé, vous pouvez comme ça le vérifier. imprimé fiscal unif récapitulant vos opérations financières. Pas de panique là aussi, certains établissements financiers, comme chaque année, sont en retard, donc tout le monde ne les a pas encore envoyés, ils ne sont pas forcément encore disponibles dans votre espace personnel auprès de votre établissement financier préféré. Attestation CESU, si vous avez employé en 2025 un ou plusieurs salariés à domicile. Voilà un tout petit peu pour le travail de base et les documents qu'il faut rassembler. Alors, ensuite, bien sûr, ce qu'il faut avoir en tête, c'est les nouveautés. Les nouveautés.
C'est évidemment ça. Alors, on avait fait une spéciale avec la nouvelle loi budgétaire, mais il y a évidemment un certain nombre de trucs qui vont rentrer en ligne de compte pour la déclaration de cette année.
Alors, bien sûr, alors, je passe, je dirais, sur les évolutions mineures, entre guillemets, parce qu'elles ont déjà été beaucoup commentées, comme la hausse du barème de 0,9% ou la réduction d'impôt pour dons de 75% qui a été tendue au versement aux associations d'aide aux victimes de violences domestiques et à toutes les fondations agissant pour la sauvegarde du patrimoine. En fait, la vraie nouveauté 2026, elle était dans la loi de finances et elle est dans la loi de finances de la sécurité sociale, de financement de la sécurité sociale pour 2026. C'est la fameuse hausse de la CSG de 1,4 points sur les revenus du capital. Donc, ce qui fait que la CSG passe de 9,2 à 10,6 et le taux global de prélèvements sociaux de 17,2 à 18,6. La mauvaise nouvelle, c'est que cette hausse s'impose rétroactivement à la plupart des revenus du patrimoine encaissé en 2025. Les revenus fonciers sont exclus. En revanche, les loyers de meublés non professionnels 2025 vont subir la hausse de la CSG comme vos plus-values mobilières ou sur crypto empochées l'année dernière. Alors, je voudrais, sur les nouveautés, quand même terminer sur une note positive. Vous savez, dans le projet initial du gouvernement, il y avait la suppression de l'abattement de 10% sur les pensions de retraite.
Oui.
Et cet abattement aurait été transformé par un abattement forfaitaire de 2000 euros. Donc, ça ne s'est pas passé. Ouais. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour tous les retraités qui nous écoutent. Voilà un petit peu pour les nouveautés.
Alors, du coup, on arbitre comment ? Est-ce qu'il y a des choses éventuellement à revoir en fonction de ça ? Et surtout, pour se préparer à faire une déclaration à la fois solide et en même temps qui va nous permettre de, perdre de pouvoir d'épargne, on va dire.
Alors, bien sûr, il y a des décisions à prendre. Vous savez, sur le plan fiscal, il y a des décisions à prendre à deux moments clés de l'année. C'est au moment de la déclaration, en mai-juin, et puis avril-mai-juin, et puis à la fin de l'année, en décembre. Donc, contrairement à ce que pensent beaucoup de contribuables, au moment de remplir votre déclaration, vous avez des choix fiscaux à faire, et il faut faire les bons choix. Donc là, souvent, il faut sortir la calculette. Alors, si vous avez des enfants majeurs, vous pouvez vous poser, qui par exemple poursuivent leurs études, vous pouvez vous poser la question de rattachement ou non à votre foyer fiscal. Si vous encaissez des revenus fonciers de montant relativement limité, est-ce que vous optez micro-foncier ou régime réel? Et puis, pour les salariés, frais réels ou abattement forfaitaire de 10%. Comme chaque année, puisqu'on est dans une mission de placement, et puis c'est le cœur de la matière du revenu aussi, pour nous, le principal piège de la déclaration, c'est toujours la case 2OP. Alors, cette case vous permet, en fait, de ne pas payer, d'échapper à la flat tax, en fait, à cet impôt forfaitaire. Vous savez, au sein des 31,4, il y a un impôt à 12,8, et vous pouvez opter pour l'impôt progressif si c'est plus intéressant pour vous. En gros, si vous êtes pas imposé, ce qui concerne quand même la moitié des foyers fiscaux, ou si vous êtes imposé dans la tranche à 11%, ça peut être intéressant de cocher cette case 2OP. Alors, tout ça vous paraît peut-être un tout petit peu complexe. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est en pratique, c'est très simple. Vous ne cochez pas la case 2OP et vous voyez combien vous avez à payer. Ensuite, vous la cochez, vous remplissez les informations complémentaires, comme les abattements pour durée détention en cas de plus-value mobilière, et puis vous voyez combien vous avez à payer et vous prenez l'option qui est le choix qui est le plus intéressant pour vous.
Oui, on peut faire un coup pour du beurre. C'est ça
et
qui est pratique.
Pas de panique. Ouais. Si jamais l'outil des impôts dit a priori de cocher la case de OP si c'est dans votre intérêt et que vous ne l'avez pas fait. Donc là, pas de panique. Alors, par contre, l'élément clé, c'est que l'administration fiscale n'est pas forcément informée de toutes les charges que vous pouvez déduire, en fait. Il y a, à part la CSG déductible, les autres charges, c'est à vous de les remplir. Donc, attention, pension alimentaire éventuellement versée en 2025 à un enfant dans le besoin non rattaché à votre foyer fiscal. Donc, vous pouvez déduire cette pension à hauteur de 6 855 euros. Il faut le décider. Il faut surtout l'indiquer à l'administration fiscale sur votre déclaration de revenus. Prestation compensatoire versée à votre ex-conjoint en 2025 est déductible sans limite si le jugement de divorce prévoit une liquidation sous forme de retraite ou en capital sur une période supérieure à 12 mois suivant le prononcé du divorce. Vous voyez, c'est très précis, donc je regarde mes petites notes.
Oui.
Et puis ensuite, et là ça concerne des millions de Français, les sommes versées en 2025 sur un PER sont également déductibles. Mmh. Ces sommes, normalement, elles sont indiquées sur votre déclaration de revenus. Simplement, il y a un petit piège, c'est que elles sont indiquées dans une case et vous devez l'indiquer dans une autre pour profiter de l'avantage fiscal. Là aussi, il y a un D'accord. pop-up. Mmh. Si votre feuille est pré-remplie à ce niveau-là, mais que vous oubliez de reporter le dit montant que vous avez versé sur votre PER l'année dernière, il y a un pop-up qui vous avertit en vous disant est-ce que vous êtes certain qu'il ne faut pas. Voilà.
Non, mais ça, c'est plutôt pas mal et il faut le souligner, c'est pas souvent, mais. Alors, en tout cas, quand on déclare en ligne, c'est quand même assez bien fait et il y a des rappels de partout pour essayer de voir si on n'a rien oublié.
C'est de mieux en mieux fait. Il n'empêche, ça reste quand même relativement un pince-somme. Si vous avez, entre guillemets, que votre pension, que votre salaire, ça va. Mais à partir du moment où il y a des charges, où il y a vous pouvez profiter de réductions, vous pouvez profiter de déductions sur le plan fiscal, ça se complique un tout petit peu. Donc, il faut quand même s'y plonger. Je terminerai quand même par un regret, et ça, chaque année, c'est pareil. Vous savez, tout à l'heure, je parlais de la revalorisation du barème fiscal à hauteur de 0,9% sur l'inflation l'année dernière. Comme chaque année, il y a une myriade d'abattements et de seuils fiscaux qui, pour là, ne sont pas revalorisés. Et vous savez qu'au revenu, on accorde beaucoup d'importance à l'assurance vie, placement financier préféré des Français. Plus de 2000 milliards d'euros, 75% du PIB, c'est énorme. Et bien, tous les abattements fiscaux, en tout cas la très grande majorité de ces abattements qui concernent l'assurance vie, notamment l'abattement de 152 500 euros, notamment l'abattement de 4 600, 1 2, sont des abattements qui n'ont pas été revalorisés depuis près de 30 ans. Ça signifie qu'aujourd'hui, le seuil, la limite d'entrée dans l'impôt en termes réels a baissé de 50%. Ça signifie qu'aujourd'hui, il y a des millions de Français qui sont taxés sur des opérations patrimoniales sur lesquelles ils n'auraient pas été taxés il y a 20 ou 30 ans. Donc ça, c'est bien dommage et c'est à dénoncer haut et fort sur votre antenne.
Et on le fait parce qu'il y a des tas de choses qui restent un petit peu dans l'escarcelle et... Quand on parle de réforme de l'impôt, ouais, il serait bien inspiré quand même le gouvernement de regarder un petit peu de ce côté-là, parce que c'est aussi l'épargne qui fait vivre l'économie réelle. Merci beaucoup, Christian Fontaine du magazine Le Revenu. À bientôt pour nouveaux conseils, toujours très concrets. Et on passe au placement à suivre.
Tout pour investir. Le placement à suivre.
Arnaud Gian de BlackRock, bonjour. Merci
bonjour,
d'être avec nous en direct parce que c'est vrai qu'on a l'œil alors rivé sur le marché européen, le marché américain. Le week-end, on regarde les places boursières du côté des Émirats pour voir comment ça réagit. Bon, on est un petit peu sur le fil du rasoir. Mais au milieu de tout ça, les terres émergentes, les économies émergentes, qu'est-ce qu'on en fait en quasiment ce milieu d'année? On s'est beaucoup posé la question en début d'année sur l'opportunité de réinvestir dans les émergents. Et c'est vrai que la crise, la guerre, tout ça a rabattu un petit peu les cartes du fait de l'impact énergétique. On s'est posé la question d'ailleurs en début d'émission de l'impact réel sur l'économie chinoise, par exemple. Bon, est-ce encore une économie émergente? La question reste posée. Mais au milieu de tout ça, on a l'impression d'un bloc des pays émergents sur lesquels on investit traditionnellement qui a tendance à complètement se fragmenter. Est-ce que c'est le sentiment que vous retenez au vu de ce qui se passe en ce moment?
Alors déjà, effectivement, la raison pour laquelle je voulais absolument parler des émergents, c'est qu'il y a un vrai phénomène depuis un an. Et on en parle assez peu vis-à-vis des forces en présence. En fait, depuis un an, on a... Alors c'est vrai qu'on... Pour le contexte, on a traversé depuis la sortie du Covid un désamour des émergents qui était assez marqué, avec beaucoup de ventes. Mm. Il y avait beaucoup d'espoir à la réouverture du Covid sur la Chine. Ça paraît déjà très loin derrière nous. Mais effectivement, on a eu une année 2022 et 2023 absolument terrible et donc des sous-pondérations. Et en fait, depuis 2025, le rebond est extrêmement fort. Et en fait, s'intensifie mois après mois. Donc, on a eu pas loin de 150 milliards d'investis dans le monde des ETP sur les émergents l'année dernière,
oui.
Ce qui est historique, ce qui est colossal et qui dépasse trois fois ce qu'on a connu sur les années précédentes.
C'est curieux que ce soit passé, alors j'allais dire sous le radar, parce qu'on est vraiment resté rivé sur...
C'est ça, en fait, on a gardé les mêmes curseurs et le même radar qu'on avait, la même boussole qu'on avait avant, qui était rivé toute Amérique. Et ouais. En fait, donc il y a eu ça, il y a eu donc les flux et forcément accompagné aussi d'une très bonne performance. Donc on a des performances sur 2025 qui étaient deux fois meilleures que dans les pays développés quand on regarde les grands indices, que ce soit d'ailleurs le marché américain ou européen. Si on regarde les explications à cela, pour nous il y en a trois. La principale, c'est effectivement on a parlé régulièrement de ce tout Amérique, tout États-Unis. Le côté US exceptionnalism,
oui.
C'était un peu le mot, qui est en fait la fin, j'ai envie de dire, ou l'arrêt en tout cas, de cette phase. C'est la première explication et j'y reviendrai. La deuxième explication, c'est le positionnement géopolitique, puisqu'on parle beaucoup en fait de onshoring, offshoring, souveraineté, et la place en fait des émergents est assez unique là-dedans et plutôt bien positionnée. Et le troisième, c'est un contexte à la fois macro et aussi sectoriel, qui est plutôt bien aligné par rapport à ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui dans l'économie.
Bien sûr. Alors, ça peut aussi s'expliquer, cette espèce de biais qu'on n'ait pas vu venir, par exemple, l'explosion de tout le secteur de la mémoire et des semi-conducteurs à mémoire qui a complètement fait exploser les capitalisations en Corée du Sud, par exemple.
Alors, effectivement. Alors ça, c'est vraiment sur le troisième pilier qui est, ouais. qui est sur le positionnement. Peut-être juste pour revenir très rapidement sur le premier et le côté tout Amérique, on parle d'un phénomène de dédollarisation de l'économie, où en fait, il y a eu un mouvement qui s'est enclenché, on va dire, depuis le Liberation Day.
Oui, tout à fait.
Un peu autour de ça, dans lequel on a quand même structurellement, on a tendance à voir des ventes d'actifs américains,
ouais.
en plus libellé en dollars,
ouais.
et investir beaucoup plus en international, donc que ce soit Europe ou émergents. Les émergents davantage. Et pour le rappel, les émergents représentent uniquement 10% de la capitalisation boursière globale. Donc quand on a un phénomène où on attire un tiers des flux, alors même qu'on représente une toute petite partie de la cote, c'est que la force est quand même très importante. Et en fait, la vente d'actifs en dollars pèse aussi sur le dollar. On parle souvent du cours au dollar.
Tout à fait, oui.
Et en fait, ce poids sur le dollar facilite aussi le financement des économies émergentes qui, en fait, empruntent beaucoup en dollars. Donc, en fait, on a une sorte de cercle vertueux qui s'est enclenché de ce côté-là et qui aide, qui favorise énormément ces économies.
Et en plus, fondamentalement, alors, hormis toute considération à base de coût de l'énergie, coût de l'alimentation et de certaines matières premières critiques, que ce soit les engrais, etc., le contexte fondamental d'inflation est peut-être beaucoup moins compliqué à gérer du côté des pays émergents que du côté de la Fed ou du côté de la BCE.
Ils sont en fait en avance de phase sur le cycle économique.
Ouais.
Ils ont, d'un point de vue politique monétaire, ils ont déjà fait une partie du travail avant nous. Ils ont des taux réels qui sont positifs, ils ont des marges de manœuvre qui sont supérieures à nous, et effectivement, dans beaucoup de zones, ils ont déjà géré les problématiques inflationnistes qui étaient même pires que ce qu'on avait dans le pays développé.
Oui, bien sûr.
Mais ils ont fait déjà un gros travail. Et donc, du coup, ils ont retrouvé ces marges de manœuvre. Pour revenir sur votre point, sur la partie dépendance aux matières premières, et en fait, c'est assez intéressant, c'était un peu mon deuxième point, sur le fait qu'en termes de positionnement, on sait qu'aujourd'hui, l'économie est bipolaire. On a le bloc Amérique, le bloc Chine, et on peut parler, savoir si la Chine est vraiment un pays émergent. Mais en fait, à l'intérieur, on a, comme vous dites, tous ces territoires émergents. Et en fait, on est passé de l'offshoring sur les 20 dernières années à de l'onshoring, souveraineté, etc. Et aujourd'hui, en fait, on est plutôt sur du friendshoring. On ne peut pas tout faire seul. On a besoin de partenaires et en fait, la place des émergents est assez unique parce qu'elles arrivent encore à nouer des liens avec les exportateurs de matières premières et beaucoup en fait sont dans les pays émergents. Donc elles arrivent en tout cas à avoir des prix de matières premières qui sont à peu près décents. Certains même en bénéficient parce qu'ils sont exportateurs. et ils sont pas encore sortis. En tout cas, il y a rien qui pèse sur les exportations vers l'Occident. Donc aujourd'hui, en fait, elles ont un positionnement qui est plutôt assez intéressant. Quand on regarde maintenant d'un point de vue positionnement sectoriel et conjoncturel, vous avez le bloc LATAM qui est exportateur de matières premières et qui, depuis en fait la fin du Covid, a forcément un alignement de planète et un vent dans le dos. On ne voit pas cela s'arrêter parce qu'aujourd'hui, les tensions sur les chaînes d'approvisionnement, sur les besoins en matières premières, elles se font ressentir. Avec cette idée de souveraineté, ça crée des tensions inflationnistes sur les matières premières. Donc tout cela est plutôt bon. Et donc c'est pour ça qu'effectivement, les performances étaient très bonnes et elles continuent à l'être depuis le début de l'année. Quand on regarde le bloc Asie, et donc là, je vais revenir sur votre point, on a un virage qui était plutôt vers la tech, qui s'est dessiné assez tôt. Donc quand on regarde, par exemple, en 2025, quelque chose qui est assez frappant, on a eu un record historique de collecte et d'investissement sur le front de la tech, boosté par l'AI.
En gros, oui, tout à fait. Ouais.
À l'échelle globale, on était sur plus de 100 milliards. 75% de ces plus de 100 milliards étaient en dehors des États-Unis. Donc, les GAFAM et les investissements qu'on a connus dans les années d'avant, pas du tout le schéma aujourd'hui. Et donc, on était plutôt sur la partie asiatique. Taïwan, on le connaît, très bien positionné sur les semi-conducteurs. SMC. Exactement. Voilà. Donc voilà, tiré par ce fleuron. Mais effectivement, en Corée, le reste de la tech.
SK Hynix, c'est vraiment deux noms de boîtes qui font tout. Voilà.
Et donc, du coup, en fait, on a un alignement. Et donc, ça irrigue le reste de l'économie. C'est pas uniquement juste ces fleurons, mais ça permet, en fait, de créer tout un écosystème. Ces économies bénéficient, en fait, de ce virage, qui est une tendance de long terme que l'on ne voit pas totalement s'arrêter.
Merci infiniment, Arnaud Gian de BlackRock. Vous reviendrez nous parler des autres terres émergentes, parce qu'il n'y a pas que l'Asie, il y a l'Amérique du Sud, on parle beaucoup du Brésil aussi, qui en plus a du pétrole, donc qui est un pays assez complet niveau panorama d'investissement. On vous refera revenir, bien entendu, pour parler de ces pays émergents, toujours fascinants, toujours terres d'investissement. Restez avec nous, petite pause pub, et puis on va se poser la question de est-ce qu'il n'est pas temps de revenir sur le secteur des logiciels qui a tant été massacré en bourse ces dernières semaines. À tout de suite.
Tout pour investir, l'événement sur BFM Business.
Stéphane Rudzinski de Rétores, bonjour.
Bonjour Antoine.
Alors, on va se poser une grave question. Enfin, non, pas grave, ne vous inquiétez pas. Non, lâchez tout, tout va bien. Il n'y a rien de grave, mais c'est sérieux. Il y a énormément de pessimisme et de négativité autour de tout un secteur en ce moment qui est celui des logiciels. L'IA va nous disrupter, l'IA va tout massacrer, on va pouvoir tout faire avec une intelligence artificielle bien calibrée, il y a des tas d'entreprises qui vont plus avoir rien à faire. Ben non, il faut pas céder à ce biais. Parce que c'est vraiment un biais comportemental sur les marchés qui agit comme une véritable purge ces derniers temps, puis souvent c'est à court terme. Non, il faut y revenir et il faut se souvenir qu'il y a des gros investisseurs du côté du secteur des logiciels et que certains d'entre eux sont en train de revenir en force sur ce secteur.
Exactement. Il y a des gros investisseurs, notamment dans le domaine du private equity, qui ont une vue complètement différente en fait des marchés cotés. Depuis le début de l'année, je ne sais pas si vous avez les chiffres en tête, mais je crois que l'indice du software américain...
On est sur du moins 40 ou quelque chose comme ça.
Moins 25, moins 30% avec un point bas, à moins 40. Ouais. Et vous avez quelqu'un qui s'appelle... Orlando Bravo, qui est le cofondateur de Thomas Bravo, qui lui a une vue complètement différente. On est au même moment en fait, sur le même secteur, et qui nous dit effectivement il y a des baisses qui sont complètement justifiées sur le secteur du logiciel. Et à côté de ça, il nous dit qu'il y a des opportunités colossales sur le secteur du logiciel.
Voilà, parce que il n'est pas question. Alors, déjà, l'actualité récente a montré que des tas de promesses mirifiques de l'IA. Se sont soldés sur le terrain par des... on va reprendre un SAP ou un Salesforce parce que c'est n'importe quoi cette affaire. Exactement. C'est pas encore au point. Donc déjà, il y a peut-être des choses qui ont été survendues. Il n'est pas question de remettre en cause le pouvoir disruptif de l'IA, mais juste de se dire, toutes ces boîtes en plus sont les premières à intégrer l'IA. Donc à bénéficier de la disruption et pas en être victime du tout. C'est peut-être ça ce biais comportemental qu'on... qu'on a de facto pris sur le marché et qui est un peu trompeur.
Oui, exactement. Bah, c'est exactement le point de vue de, d'Orlando Bravo. Hein. Juste pour le resituer, ce monsieur, parce que c'est vraiment important. Ouais. Hein. Mmh. Thomas Bravo, c'est une société de gestion de private equity spécialisée dans le logiciel, la plus grosse au monde. Mmh. Ça gère plus de 180 milliards depuis les années 2000. Mmh. Taux de rendement moyen sur les fonds avec des hauts et des bas, mais en moyenne, c'est plus de 30% brut de TRI. Donc, c'est quelqu'un qu'il faut écouter.
Qu'il faut écouter et qui, en même temps, est au cœur d'une tempête en ce moment qui concerne le crédit privé aux États-Unis. Il est principalement exposé dans au domaine du logiciel. Donc, il sait de quoi il parle. Il doit avoir des demandes de redemptions depuis quelques semaines qui courent.
Alors, Thomas Bravo gère que des fonds de private equity, oui, dette privée, mais il finance effectivement plusieurs de ses participations par, par de la dette privée. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que Thomas Bravo dit très clairement, oui, effectivement, il y a des boîtes de logiciels qui vont être complètement disruptées par l'IA. Ce sont des boîtes finalement qui n'ont pas de compétences métiers, qui n'ont pas d'expertise métier, qui proposent une très belle interface avec pas mal de code générique, mais c'est pas du tout le cas de l'ensemble des sociétés de logiciels qui, elles, vont avoir finalement un ADN complètement différent. Mmh. Et c'est là qu'il faut comprendre en fait le concept de que Orlando Bravo met en avant. Ce sont les logiciels qui ont cette expertise métier, qui intègrent la donnée client en leur cœur et qui sont très difficilement qui seront très difficilement disruptés par l'intelligence artificielle. Mmh. Ce type de logiciel a trois caractéristiques, deux caractéristiques majeures. La première, c'est que ils ont la donnée propriétaire, ils ont tout le workflow historique de l'entreprise. Mmh. Ils ont une sorte de monopole informationnel et ça, c'est un avantage considérable.
Oui, ça, on peut pas l'inventer.
Ça, on peut pas l'inventer.
Et au sommet de la pyramide, il y a quand même le cerveau humain.
Exactement.
C'est finalement la meilleure protection contre... c'est de la valeur ajoutée pure et ça, aucune IA pourra le disrupter.
Exactement. Et le deuxième atout de ces logiciels, c'est qu'ils sont complètement intégrés depuis des années dans les entreprises. Ils sont vraiment... incrustés, on parle de ces logiciels qui sont très collants en fait, qui sont impossibles à défaire. Parce que défaire un logiciel qui est là depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans dans une société, c'est très très compliqué. Ça coûte très très cher, vous prenez un risque opérationnel majeur à le faire.
Oui, il y a des entreprises qui parlent en CRM, en SAP, c'est une norme.
Ah bah, donc, aller débrancher un SAP sur une boîte qui fait de l'industrie, c'est très compliqué.
Remplacer le par Claude, qu'on rigole.
Exactement.
Non, puis avec toute l'expertise et la spécialisation, parce que c'est des produits qui évoluent en fonction des besoins.
Donc. Exactement. D'autant plus que certains logiciels de ce type-là s'appuient également sur un processus réglementaire. C'est par exemple le cas dans l'aéronautique, c'est le cas dans la santé. Pour faire fonctionner ces logiciels, il faut une certification par soit un organisme étatique, soit par un organe de décision. Mmh. Donc, c'est vraiment très difficile à les faire bouger.
Ouais.
Et les personnes de chez Thomas Bravo font une analyse que je pense juste, en expliquant que l'IA, en fait, sur ce type de logiciel-là, va créer en réalité beaucoup de valeur, parce que à cette donnée propriétaire, vous allez ajouter une puissance de calcul colossale au cœur de ces outils qui va générer énormément de valeur.
Bon, et une information importante qui date de ce matin, mais qui va dans le sens de tout ça, c'est que Blue Owl Capital, une des principales sociétés de gestion de crédit privé, a réussi quand même ces derniers jours à lever 200 millions de dollars, ce qui prouve qu'il y a peut-être justement du mieux et une sorte de point bas qui a été atteint sur le secteur des logiciels. En tout cas, merci infiniment d'être venu nous en parler. Stéphane Rudzinski de Rétores.
Merci beaucoup.
Tout pour investir, l'événement sur BFM Business.
Allez, je vous retrouve à 15h30 aux côtés de Guillaume Sommerer pour BFM Bourse. D'ici là, bien sûr, vous retrouvez Marie Cœur de Roy dans quelques secondes pour les expérimentaux. À bientôt sur BFM Business.
Tout pour investir sur BFM Business.